Bienvenue dans Plan B, le podcast mensuel qui va à la rencontre de ceux qui aiment et qui vivent pour et grâce aux crypto-monnaies. Je m'appelle Roxane et je serai votre hôte. Grâce à mes invités soigneusement sélectionnés, on démystifie ce qu'est Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies en général. Et tout ça sans chichi et sans jargon. Aujourd'hui, j'accueille pour mon plus grand plaisir Jean-Luc Verhelst. Commençons cet entretien sans plus attendre.
Merci Jean-Luc d'être présent aujourd'hui. Te faire intervenir dans ce podcast était capital pour moi car tu es la personne grâce à qui j'ai réellement compris ce qui se cachait derrière le terme blockchain. Tu as un don naturel pour expliquer des concepts complexes tout en t'adaptant à ton public. Alors rien ne te destinait à cette vie, mais ta passion et tes rêves t'ont amené à devenir un conférencier, formateur, consultant et même un auteur reconnu internationalement dans le domaine de la technologie blockchain. Bienvenue Jean-Luc.
Merci Roxane, merci de m'avoir aujourd'hui avec vous.
Entrons dans le vif du sujet avec cette question que je pose à tous mes invités. Petit flashback en arrière et raconte-moi quel a été le moment où, pour la première fois, tu as entendu parler de la blockchain et des crypto-monnaies et surtout, quel a été ton ressenti à ce moment-là?
Alors c'est assez marrant parce qu'en fait, j'étais à ce moment-là à l'université, mais pour comprendre l'histoire complète, il faut retourner encore quelques années en arrière. C'est-à-dire que j'avais un business en ligne sur eBay qui vendait un produit spécifique. Pendant plusieurs années, quand j'étais étudiant, je vendais ce produit toutes les semaines. Et c'était assez intéressant. En tant qu'étudiant, il ne faut pas gagner beaucoup d'argent pour se dire qu'on gagne déjà un peu d'argent et que c'est sympathique. Et en fait, ce que je me suis rendu compte à travers mes études, j'étais à ce moment-là, je crois, donc c'était 2011, j'avais fini mon bachelier en informatique. Ce produit s'est arrêté de vendre, tout simplement. Et donc, grande erreur stratégique de ne vendre qu'un seul produit. Et je me suis mis à la recherche d'une nouvelle source de revenus. Et forcément, j'avais goûté au fait de se faire des revenus en ligne. Et je m'étais dit, comment est-ce que je peux faire d'autres revenus en ligne? Et donc, j'ai tout simplement fait une recherche Google, How to make money on the internet, comment se faire de l'argent en ligne. Et j'ai passé quelques heures à regarder tout ce qui était possible, etc. Il n'y avait finalement pas grand-chose qui m'inspirait. Mais il y a un mot qui m'est revenu et qui m'a un peu tapé à l'oreille, c'était le mot Bitcoin. Et on parlait d'une monnaie virtuelle qui, à l'époque, valait vraiment quelques euros. Et je me souviens très bien, parler de monnaie virtuelle, moi, ça me paraissait complètement louche. La monnaie, c'est des billets, c'est de l'argent, c'est émis par les banques. Enfin, quand quelque chose de virtuel, ça paraît bizarre. Et donc, j'ai pas tout de suite regardé plus en profondeur. Je me souviens d'un commentaire d'un économiste à l'époque qui disait que c'était n'importe quoi. Et l'économiste est quand même très reconnu. Je me suis dit, OK, si tel économiste dit que c'est n'importe quoi, probablement de quoi il parle. Première grande erreur capitale. Et donc, je vais arrêter de regarder ça pour le moment. Et donc, mon ressenti là-dessus, c'était un peu, c'est intriguant, une monnaie en ligne, c'est vrai que ce serait génial, ça permettrait plein de choses, mais en même temps, très, très douteux de la chose aussi.
Du coup, tu avais tapé comment faire de l'argent en ligne et donc, les sites web sur lesquels tu es tombé disaient acheter du Bitcoin, vous deviendrez riche. C'est ça que ça disait ou c'était pas du tout ça?
Alors ça, c'est venu après, je pense. Disons, à ce moment-là, il faut se dire, Bitcoin a été lancé fin 2008, début 2009. On est deux ans et demi plus loin, donc il faut vraiment se remettre dans l'état de l'époque. C'est-à-dire qu'on avait un algorithme qui est la blockchain, mais qui fonctionnait très bien, mais qui n'était pas encore parfait et auquel l'accès pour avoir des Bitcoins n'était pas non plus donné. Il fallait presque connaître des gens en ligne pour pouvoir trader des Bitcoins, pour pouvoir en acheter. Et donc souvent, la façon d'avoir des Bitcoins à l'époque, c'était vraiment de faire du minage. C'était encore la façon la plus facile et la plus certaine d'avoir des Bitcoins. C'était d'avoir son PC qui tournait avec son processeur qui allait miner des bitcoins. Et donc ça, c'était vraiment, on était vraiment au début, il fallait vraiment être un geek pour comprendre et croire dans le système. Et donc, il n'y avait pas encore tous ces sites qui disaient « achetez des bitcoins, vous allez devenir riche ». Ça, c'est venu beaucoup plus tard quand l'écosystème a gagné en termes de maturité. Non, à l'époque, c'était vraiment pour les geeks, quoi.
Et justement, en parlant de geek, toi, tu avais fini ton bachelier en informatique et donc tu t'es dit que tu allais miner ou pas?
Je me suis dit que si j'avais le temps, je regarderais ça une fois un peu plus en profondeur, mais qu'il me fallait quand même quelques bases pour pouvoir vraiment comprendre le truc, parce que je suis quelqu'un qui effectivement mesure bien ses choix, on va dire. Et donc, avant d'investir des sous dedans ou de passer 3 mois à mettre en place un truc de minage, j'ai aucune idée si ça aurait pris 3 mois, probablement pas. J'aurais bien voulu comprendre en profondeur comment ça fonctionnait et donc lire les white papers, etc. Et j'avoue que j'ai ouvert le white paper à l'époque et ça avait l'air quand même un peu chinois. On parlait de hash, on parlait de plein de choses cryptographiques. Moi, ça me paraissait un peu compliqué. Et donc, je n'avais pas suffisamment confiance dans ce que j'aurais miné ou acheté que pour dire que ça valait la peine de vraiment investiguer le matériel nécessaire pour faire ça. Et donc, oui, c'était une idée qui m'était venue, mais je m'étais surtout dit, bah, en fait, il y a ce commentaire qui dit que ça vaut pas grand-chose, ça a l'air un peu sulfureux, bon, on va passer.
Oui, justement, la première fois que tu as vraiment décidé de te lancer les deux pieds joints ou peut-être juste un petit orteil dans les crypto-monnaies, c'était quoi ce moment-là ?
C'était plutôt les deux pieds joints, c'est-à-dire que c'était en 2013. Il fallait choisir un sujet de mémoire. Donc, j'ai fait un master après en gestion. Il fallait choisir un sujet de mémoire. J'avais pris la filière finance. Un des sujets proposés, c'était le Bitcoin. Et là, j'étais super content parce que je me suis dit, purée, c'est génial. Ça fait 2-3 ans que j'ai envie d'investiguer ce truc et je me dis, il faudrait une fois 2 mois pour me plonger dedans à fond. Je voulais déjà le faire comme sujet de mémoire, mais là, j'ai un prof qui, en plus de ça, est ouvert à l'idée de faire un mémoire sur ce sujet quand même. Qui est pas très mainstream hein, dans la finance à l'époque. Et donc, je vais saisir cette opportunité-là et je vais me plonger dedans pendant plusieurs mois, comprendre vraiment c'est quoi ce truc et me faire ma propre opinion en me disant bah, peut-être qu'après, si je suis convaincu, j'investirai. Et si je ne suis pas convaincu, bah, c'est pas grave, ce sera ma conclusion de mémoire et ce sera comme ça.
Quelle a été la conclusion de ton mémoire ?
C'est génial, cette monnaie. C'est vraiment révolutionnaire. Ma conclusion du mémoire, c'était tout le monde doit comprendre ce truc. C'est le futur de la monnaie. Donc, j'étais extrêmement emballé par ce que je venais de découvrir. Je me souviens que ma conclusion, c'était un peu... Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on parle du Bitcoin comme étant une monnaie marginale, un peu bizarre pour les systèmes de drogue, utilisée pour toute une série de choses qui ne sont pas bien. Donc, tout ce qui était économie mainstream était vraiment contre le Bitcoin. Et moi, je disais, mais en fait, non, c'est tellement transparent que en fait, le mainstream serait très probablement intéressé de comprendre comment ça fonctionne parce qu'on peut tracer les Bitcoins. Donc, en fait, si on parle d'activité illégale, c'est génial pour aussi comprendre où se trouve l'activité illégale. Et donc, en fait, je me suis dit, mais je ne comprends pas cette différence, ce contraste énorme entre ma compréhension du sujet à ce moment-là et le discours qui se fait vraiment dans le monde économique sur le Bitcoin. Je disais, c'est incohérent. Et c'est là qu'on découvre, en fait, c'est une première réalisation, c'est en fait de se dire, ben, quelque part, ce fameux économiste, il y a 3 ans, qui disait que c'était n'importe quoi, ben, il avait peut-être tort. Et c'est de se dire, en fait, il y a des personnes qui ont une réputation énorme, qui n'ont pas toujours raison sur tout et qui parfois se permettent sur certains sujets de s'aventurer ou en tout cas de se prononcer en suivant un peu ce que tout le monde dit sur ce sujet mais sans vraiment avoir creusé le truc et donc ça m'a beaucoup permis de remettre en question aussi ce qu'on disait ou ce que certains économistes disent. L'économie n'est certainement pas une science exacte, mais on se rend aussi compte que parfois certains économistes auront tendance à vraiment prétendre quelque chose ou dire quelque chose parce que d'autres personnes disent du mal, par exemple, du Bitcoin, sans vraiment comprendre en profondeur de quoi il s'agit. Alors, ils peuvent toujours dire du mal après, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe en profondeur. Et ça a changé maintenant. Hein. Maintenant, on a vraiment beaucoup plus de maturité. Je pense que la majorité des économistes comprennent le pour et le contre. Et alors, il y a toujours encore des gens pour et des gens contre, pour des raisons tout à fait valables. Mais disons que la qualité de l'argumentaire a vraiment augmenté depuis. Mais voilà, ça, c'est une première réalisation aussi qu'on fait à ce moment-là en se disant mais il y a un contraste tellement énorme entre ce que je comprends et ce qui existe et ce qu'on peut voir sur des algorithmes et du code en fait.
Et pourquoi est-ce que tu penses qu'à ce moment-là et encore maintenant il y a des gens quand même assez éclairés au niveau de la finance qui continuent à clamer haut et fort que Bitcoin ou les crypto-monnaies c'est que du vent ?
On a un peu deux églises. En fait, moi j'ai envie de dire toute devise c'est que du vent. C'est-à-dire que toute devise est une croyance collective. Si demain, on arrête tous de croire dans le Bitcoin et il n'y a plus personne qui veut détenir ce truc et on va tous vendre, ben ça vaudra zéro. Donc, on estime que ça vaut quelque chose si la valeur vaut plus que zéro. Et donc, à ce moment-là, c'est une croyance collective dans le fait que ça vaut rien et ça descendra en termes de valeur. Au jour d'aujourd'hui, on a une croyance collective dans l'euro. Alors, l'euro, il est émis par des banques centrales qui font plus ou moins tourner la planche à billets de façon virtuelle, hein, on va dire. Ils injectent de la monnaie. Mais en réalité, c'est aussi du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça. Il n'y a pas de l'or qui, quelque part, dans des casiers bancaires, qui, au moment où on retourne avec son argent auprès de la banque, on peut demander de l'or en échange. Et encore bien que l'or aurait une certaine valeur, c'est une bulle depuis 6000 ans aussi. Sa valeur intrinsèque en termes d'utilité est beaucoup plus faible que celle à laquelle elle est vendue. Donc pour moi, toutes les devises sont que du vent, toutes par le temps. Le temps, on en a une capacité limitée. Mais donc, tout est une question de croyance. Et donc, aujourd'hui, s'il y a des économistes qui sont contre le Bitcoin ou qui ont plus de confiance dans le système politique monétaire tel qu'il est établi aujourd'hui, c'est possible. Et ce n'est pas forcément un argument dans lequel ils ont spécialement tort ou raison. C'est une opinion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura plus de confiance dans une personne, dans une banque centrale, qui, de façon centralisée, peut décider de la politique monétaire d'un continent. Tandis que dans le cas du Bitcoin, on a une politique monétaire beaucoup moins flexible, c'est-à-dire que c'est un algorithme, et donc là, on aura une confiance dans un algorithme qui dicte une quantité limitée, qui prédit très clairement le nombre de Bitcoins qui seront créés toutes les 10 minutes, etc., etc. Et donc, tout est une question de confiance. Est-ce qu'on a confiance dans un algorithme où il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont s'assurer que cet algorithme soit suivi et qui est très prédictible? Et donc, on sait exactement quelle sera la valeur ou la masse monétaire dans l'économie Bitcoin versus est-ce qu'on a confiance dans un être humain qui dicte des politiques monétaires plus ou moins flexibles en fonction de l'environnement économique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais idéologie dans ce truc, ce sont juste deux choses complètement différentes. Voilà, le Bitcoin avec une politique monétaire peu flexible n'est pas non plus l'apogée, c'est-à-dire que si vous voulez qu'une économie tourne et donc qu'il y a une certaine croissance et qu'il y a de plus en plus d'activités parce que ça permet d'acquérir plus de biens et donc d'avoir un niveau de vie, un confort plus élevé, c'est pas possible avec le Bitcoin pour la simple raison qu'il y a une quantité limitée, et donc c'est une économie plus déflationniste. Et donc tout ce qui est rare, on a tendance à le garder. C'est-à-dire que si moi j'ai un Bitcoin, je vais le garder parce que il y en a que 21 millions, et donc je sais que j'ai un 21 millionième de l'économie. Ça ne pousse pas à l'utiliser comme moyen de paiement, à l'utiliser pour acheter des biens et des services, parce que je sais que quelque part sa valeur va probablement, théoriquement, étant donné qu'il y a une quantité limitée, augmenter. Donc la valeur va augmenter à travers le temps en théorie, et donc j'aurais tendance à garder. Et donc ça va pas faire tourner l'économie, ça va pas faire avancer la société. Et donc avoir une devise qui est moins bonne comme l'euro par exemple ou le dollar, où on crée une certaine quantité chaque année, permet tout à fait d'avoir une économie, ou en tout cas de faire tourner un peu plus le système. Et donc, il y a pas de... Les deux arguments se valent. Je pense que les deux sont des alternatives l'une à l'autre. Il y a un économiste qui disait tout simplement qu'une bonne devise, c'est une devise qui n'est pas trop bien. Et donc, si vous avez deux devises, la personne va toujours dépenser la devise qui est la moins bonne et va garder la devise qui est la meilleure. Imaginez, on va prendre un exemple un peu plus concret. Imaginez, vous avez le dollar américain, et puis à côté de ça, vous avez le bolivar Venezuela. Et donc, à ce moment-là, vous allez dire, ben voilà, j'ai les deux, lequel est-ce que je dépense en premier? À moins que vous pensez que le bolivar va devenir un élément de collection d'ici quelques années parce que c'est le dernier billet qu'ils impriment, vous allez vouloir dépenser les bolivars parce que vous allez dire, ben demain, ça vaudra beaucoup moins et donc je vais garder mes dollars. Eh ben, c'est un peu la même chose. Si vous avez de l'or et vous avez des euros, vous pourriez vous dire, je vais dépenser mes euros parce que je pense que l'or va garder plus de valeur. Alors, l'or, ouais. Enfin, comme le Bitcoin a marché plus ou moins sur l'offre et la demande, et donc on sait très bien que le cours de l'or sur les derniers mois il a bien chuté aussi. Mais c'est un peu la même chose avec le Bitcoin. Si vous avez le Bitcoin et vous avez des euros, et que l'un on sait qu'il y aura une quantité limitée et l'autre on risque d'en imprimer ad vitam aeternam, mais vous allez avoir tendance à dépenser les euros.
Justement, en fait, on a déjà nous-mêmes en fait du mal pour. Parle de la personne lambda qui n'étudie pas l'économie, à comprendre, ne fût-ce que notre système monétaire et financier. Comment t'expliques justement qu'on ne nous apprend pas ce qu'est la valeur de l'argent, comment fonctionne notre économie, etc., alors que finalement, on l'utilise quand même tous les jours?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est si on comprenait tous comment fonctionne l'économie, et ça devient de plus en plus abordable pour tout le monde de comprendre, je pense que ça relève beaucoup de questions. Et je pense que ça a été, et encore une fois, moi, je suis né... début des années 90, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé avant, comment le monde fonctionnait avant. Mais je pense que s'il y a une certaine non-compréhension de ce système, en fait, c'est dans l'intérêt d'une certaine paix aussi au sein d'un continent ou d'un pays. C'est-à-dire que pour moi, la fonction primaire de l'argent dans le sens général du terme, on ne parle pas de devise, c'est vraiment de garantir une certaine paix ou de garantir un certain ordre dans la société. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les premières lignes de mon bouquin, l'argent, il est partout. Il est dans la ville, il est dans la maison communale, il est dans les rues, il est dans le gouvernement, il est dans notre job, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin. On est tous occupés, en tout cas 99,9% de la population est occupée de se poser la question, comment je gagne de l'argent, de combien d'argent est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je peux m'acheter avec cet argent. Et le fait qu'on se pose tous cette question de façon aussi fondamentale dans notre vie et de façon aussi fréquente, ben ça a une influence sur notre comportement. Ça permet tout simplement d'organiser une société, je pense. Et donc pour moi, la valeur fondamentale assez abstraite de l'argent, c'est ça. Et si on a un outil, parce qu'au final, c'est un outil qui permet tout simplement de se dire, ben tiens, voilà, ça va nous permettre de créer une certaine structure dans la société, et ben on va l'utiliser. Alors, comprendre cet outil, c'est peut-être pas forcément dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez une masse du peuple qui, quelque part, 99 ou 95% ne comprend pas réellement, et je parle pas d'investir ici, je parle vraiment de la création monétaire ou de c'est quoi l'argent, ben, En fait, on vous apprend ça un peu comme étant petit, comme étant un fait. En fait, on vous apprend, il y a des euros et il faut avoir plus d'euros parce que c'est mieux. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous offrir plus de choses. Et si vous n'avez pas assez d'euros, vous allez vous retrouver à la rue. C'est un peu un jeu. Et on vous apprend la règle du jeu. C'est qu'il faut avoir des euros. Ce qu'on vous apprend pas, c'est qu'un euro aujourd'hui, il vaut peut-être pas un euro de demain. Et on vous apprend pas non plus que, il y a un euro qu'il y a quelqu'un qui peut créer plein d'euros. Et qu'en fait, c'est par exemple, au jour d'aujourd'hui, par exemple, la dette. Si vous déposez de l'argent à votre banque, vous déposez 100 euros à votre banque, votre banque, elle peut emprunter 90 euros à quelqu'un d'autre. Cette autre personne va recevoir 90 euros, elle va déposer ses 90 euros à la banque, et la banque, encore une fois, sur ses 90 euros, pourra emprunter 181 euros à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est un peu un jeu de cartes, parce qu'on crée de l'argent à partir de l'argent qui existe déjà. Mais donc, en fait, je pense que si ce genre de concept serait connu par tout le monde, les gens se diraient, c'est assez intuitif, en fait, de se dire, mais c'est un truc de dingue. Et je pense que ça a toujours été quelque part dans l'intérêt des gens qui ont étudié la finance, de comprendre ça, en se disant, tiens, c'est vrai, nous, on comprend du coup l'effet de levier en créant de la dette, par exemple. Et donc, ça nous permet quelque part de créer un rendement ou d'investir dans des choses auxquelles on ne pourrait pas investir parce qu'on n'a pas le cash. Quelque part, c'est comme dans tout. C'est-à-dire, à un moment donné, vous vous spécialisez en finance, vous comprenez des choses que les autres personnes ne comprennent pas. Quelque part, c'est un peu dire les gens ne savent pas, mais ils adoptent et ça permet de créer une certaine stabilité. Imaginez demain, si tout le monde se révolte contre ce système, pour un bien ou pour un mal, ça va créer une certaine instabilité. Alors, ce qui en sortira sera peut-être mieux, sera peut-être moins bon. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours cette envie-là de vouloir garder une certaine stabilité dans la façon de fonctionner.
Et contrairement à l'argent que l'on utilise au quotidien, que ce soit des euros, des dollars, etc., par contre, Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont-elles beaucoup plus simples à comprendre ?
Alors, elles sont plus simples à comprendre. Ça, je pense. Oui et non. Encore une fois, tout dépend de son background et de ce qu'on connaît. Si vous connaissez, comme je vous disais, moi au début, j'avais beau avoir étudié l'informatique, la cryptographie, je comprenais pas trop, et donc ça me paraissait vachement compliqué à comprendre. Et peut-être que quelqu'un qui travaille dans la finance ou en économie, justement, qui connaît bien tous les principes macroéconomiques, etc., il pourra très facilement comprendre le système macroéconomique et le système mainstream de la finance aujourd'hui, et donc il va avoir une confiance là-dedans. Par contre, il va dire, mais je vais commencer à comprendre la cryptographie, moi je comprends rien de tout ça, mais je ne vais pas avoir confiance là-dedans. Moi, par contre, en tant qu'informaticien, en tant que personne qui a étudié ça, ça m'intriguait beaucoup de se dire qu'on peut créer de l'argent avec un algorithme et que cet algorithme, on puisse avoir confiance dedans. À travers le temps, en fait, j'ai commencé à comprendre la cryptographie et plus j'ai commencé à comprendre, plus j'ai commencé à avoir confiance. Au jour d'aujourd'hui, le système financier macroéconomique mainstream, je le comprends plus ou moins. Enfin, mieux que la moyenne des gens, je pense. Mais il y a toujours des petites parties que je ne comprends pas. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi, j'aurais beaucoup plus confiance dans un système comme le Bitcoin parce que il me paraît plus simple, entre guillemets, à comprendre pour moi, personnellement. Et c'est aussi, une fois que j'ai compris ça, j'ai voulu commencer à l'expliquer à tout le monde et à, en tout cas, mettre en avant le fonctionnement de ce truc-là. Et puis, libre à tout et chacun de définir ce que lui pense de tout ça. Après, c'est pas parce qu'un système est facile à comprendre qu'il est forcément bon. C'est-à-dire que comprendre qu'il y a que 21 millions de bitcoins, c'est très facile à faire. C'est pas compliqué à comprendre. Après, est-ce que ça veut dire que c'est un système financier durable? On peut se poser la question. Parce qu'encore une fois, il y aura pas ces espèces de 2% de croissance ou d'inflation économique ou plus ou moins en fonction des politiques monétaires qu'on essaye de mettre dans l'économie pour faire tourner l'économie. Donc, ça, c'est limite aussi. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je le regarde vraiment comme étant un actif très intéressant. En fait, c'est une alternative au système financier actuel. Et quand je dis alternative, ça ne veut pas dire, c'est un petit truc dans lequel il faut mettre un petit peu d'argent. Non, c'est une vraie alternative. C'est-à-dire que vous avez deux mondes. Et donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux se valent. Encore une fois, vous pouvez avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est pas une petite alternative, c'est une réelle alternative au monde financier d'aujourd'hui.
Et une alternative en quoi ? Parce que tu me disais tout à l'heure que le Bitcoin ne va pas s'utiliser parce que comme il n'y en a que 21 millions, on a tendance à le garder.
Oui, alors surtout une alternative dans la préservation de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit souvent « cash is king » et c'est vrai qu'en termes d'investissement, la personne qui a du cash peut saisir une opportunité d'investissement. Si vous aviez du cash sur votre compte d'épargne, au moment où il y a eu la crise sanitaire du Covid et que vous vouliez investir en bourse, vous aviez le cash pour investir en bourse, donc cash is king, donc super. Mais on dit aussi, vous pouviez également investir en Bitcoin, vous pouviez également investir dans d'autres actifs qui avaient fortement chuté, donc vous disiez la chute est trop forte. Donc cash is king, c'est certainement quelque chose qui est vrai en termes d'investissement. Mais on dit aussi de plus en plus cash is trash. C'est-à-dire que le cash, c'est un peu de l'argent poubelle. Dans le sens où la dévalorisation du cash est très forte, et encore une fois, ici, on continuer à injecter et donc on va continuer à dévaloriser la valeur, le pouvoir d'achat de l'argent cash. Et donc, si quelque chose n'est pas rare, en toute théorie, ça perd de la valeur. Et donc, qu'est-ce qui garde de la valeur ? Ben, c'est quelque chose qui est rare. Donc, qu'est-ce qui est rare? Le bitcoin est rare, l'immobilier est plus rare, les métaux précieux sont rares, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bulles sur tous ces trucs-là. Hein. Il y a peut-être une bulle immobilière, il y a peut-être une bulle sur le bitcoin, il y a peut-être une bulle sur les métaux précieux, mais ils sont rares. Donc, théoriquement, la valeur devrait augmenter. Si vous avez plus de gens qui veulent acheter, ben, il y aura une surenchère là-dessus. Et donc, en fait, c'est une alternative pour moi, c'est vraiment une préservation de valeur. C'est-à-dire que si demain, on se rend compte que sur une échelle de 20, 30 ans, ben, le million d'euros qu'on a sur son compte en banque, ben, ça équivaudra peut-être à 250 ou 300 ou 500 000 euros au jour d'aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, vous pourriez dire, mais tiens, où est-ce que je vais mettre mes sous de façon à ce que la valeur que j'ai aujourd'hui, mon million d'euros, je sais pas moi, ça vaut peut-être au jour d'aujourd'hui 50 bitcoins. Si j'achète mes 50 bitcoins, est-ce qu'avec ça, je pourrais acheter plus dans 20, 30 ans que si je gardais mes euros? Et ça, en fait, c'est la réflexion préservation de valeur. Où est-ce que je mets mes actifs pour que je garde un pouvoir d'achat suffisamment élevé dans le futur, quelle que soit la devise qui soit utilisée ou le moyen de paiement qui soit utilisé à ce moment-là.
Après cet exposé passionnant sur la finance, ce que je te propose, c'est qu'on revienne à toi et à qui tu es et comment tu en es arrivé là.
Mais donc, moi, je suis né dans un petit village en Belgique. C'est vraiment un tout petit village. Hein, donc, mes parents sont agriculteurs. Je ne rigole pas quand je dis que dans ce village, il y a plus de vaches que d'êtres humains. C'est vraiment un petit village de 400 personnes, bien perdu, enfin, pour autant que la Wallonie est perdue, parce qu'on est quand même bien connecté, mais enfin voilà, moi j'ai vraiment grandi au clocher d'église, c'est-à-dire que mon école primaire, elle était à 1 km de la ferme de mes parents, je rentrais tous les midis manger, enfin, voilà, donc c'était vraiment très très axé clocher d'église comme environnement, et donc quand on vit dans ce genre d'environnement, Bruxelles, la télévision, les hommes politiques qui sont à la télé, ce genre de choses, ça paraît très 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 loin. Et ça paraît complètement inaccessible et un monde tout à fait différent. C'est le monde de la ville et la ville, elle est à 45 minutes en voiture et c'est loin. Pour moi, ce qui a été absolument important, c'était un premier choix. C'était vraiment le choix de dire, à mes 12 ans, je vais aller faire des études générales plutôt que des études professionnalisantes, par exemple. Et le deuxième élément qui a été pour moi, et c'est le plus important dans ma vie, qui a vraiment changé énormément de choses, c'est le fait que j'ai demandé et j'ai insisté pour avoir une connexion Internet chez moi. Je pense que je l'ai eu vers mes 14 ans, donc un peu plus tard que la moyenne, mais pas beaucoup. Et pour moi, c'était génial. Pourquoi ? Parce que pour moi, avoir une connexion Internet, ça voulait dire Wikipédia. Ça voulait dire que j'avais accès à des informations auxquelles j'avais pas accès dans les encyclopédies qui traînaient chez moi et ce genre de choses. Et donc pour moi, ça a vraiment été une révolution. Ça m'a permis de rentrer en contact avec des personnes différentes, de communiquer avec les étudiants avec qui j'étudiais, mais donc de communiquer d'une autre façon. Et surtout de lire sur Wikipédia, beaucoup lire sur Wikipédia. Et donc j'ai passé beaucoup de temps en ligne. Mes parents avaient fait la super remarque de dire « Internet, c'est bien, on te le met, mais c'est pas pour aller jouer des jeux vidéo, c'est pour t'instruire. » Et je suis très content qu'ils m'ont fait cette remarque-là et qu'ils ont été très clairs là-dessus parce que effectivement, pour moi, c'était déjà plus que suffisant et c'était génial d'apprendre et découvrir plein de choses différentes. Et en fait, d'avoir un peu cette impression que le monde est à sa portée malgré qu'on soit jeune et que par ce biais-là, on peut tout simplement s'inspirer d'autres histoires qui ont lieu en Amérique, qui ont lieu en Chine, qui ont lieu dans d'autres endroits. Et avoir cet accès à l'information, pour moi, ça a vraiment été le début de quelque chose de très, très important. Et de là, petit à petit, comme je disais, à 16 ans, j'ai lancé un petit business. C'était un business en ligne. Mes parents sont quand même des entrepreneurs, hein, donc quelque part n'était pas rare à la table de parler d'argent et donc c'était aussi je me dis l'argent, est-ce qu'on peut en trouver sur internet, tel site propose de gagner un peu de sous comme ça, ou je peux vendre tel truc, etc. Il y avait eBay à l'époque, c'était toutes des choses assez nouvelles et auxquelles je me suis lancé malgré les limites d'âge. Parfois il fallait avoir 18 ans pour s'inscrire sur eBay, ouvrir un compte PayPal, j'avais un peu demandé à mes parents si je pouvais quand même ouvrir un compte PayPal sous leur nom, ce genre de choses. Et donc, ils étaient très ouverts là-dessus. Mais donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à comprendre. C'est un changement de paradigme que dire qu'on peut se faire de l'argent en ligne. Mais pour moi, ça restait toujours à ce moment-là de l'argent étant 1 euro égale 1 euro. Et 1 euro, ce sera toujours égal à 1 euro. Et ce sera toujours égal à 1 euro. Mais la valeur avec laquelle on pourrait acheter, ça, je n'avais pas encore vraiment conscience à ce moment-là de cette chose-là. Et c'est vraiment seulement en étudiant le Bitcoin qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte, c'est dingue comme système. On est dans une croyance collective. Et ça a beaucoup changé aussi mon rapport avec l'argent par après.
En quoi ça l'a modifié ?
Il faut quand même savoir que j'étais assez carriériste au moment de mes études, etc. Je pense que je suis toujours assez ambitieux. Mais disons que j'avais, à mon avis, à ce moment-là, une, une envie de me dire je veux gagner de l'argent pour gagner de l'argent, un peu comme pour l'envie d'être riche et pour pouvoir avoir des moyens. Et donc, si on est riche, ça veut dire qu'on pourra utiliser cet argent pour des bonnes causes, hein, peut-être. Hein, voilà, quand on voit ce que Bill Gates fait, etc. Mais de se dire, au moins, si j'ai beaucoup d'argent, je pourrais décider sur de certaines choses, où je pourrais influencer certaines choses dans le monde. En tout cas, ça me paraît être un outil pour réaliser des choses. Et bon, je pense que c'est toujours le cas, hein, mais disons que ça avait quelque chose, mon rapport à l'argent à ce moment-là avait quelque chose de il faut en avoir et il faut se mettre des objectifs. Et en fait, se rendre compte que voilà, qu'il y a des devises qui perdent complètement leur valeur du jour au lendemain, ça, enfin, je veux dire, si vous voyez ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe au Venezuela ou ce qui s'est passé au Zimbabwe, ça remet quand même les choses un peu à leur place. C'est-à-dire que vous pouvez travailler 20, 30, 50 ans pour gagner de l'argent et être riche et atteindre cet objectif que vous fixez, et puis d'un jour à un autre, pour quelque chose qui n'est pas dans votre contrôle, mais parce qu'une banque centrale fait n'importe quoi, ça ne vaut plus rien. Là, vous vous dites quand même, c'est peut-être un peu gros comme investissement pour ma vie, de passer ma vie à aller chercher des chiffres. Et donc, ça permet beaucoup de relativiser l'importance de l'argent dans une vie. Je pense que voilà, ça reste toujours que c'est un outil, ça reste un outil important, mais je le vois aujourd'hui beaucoup plus comme étant quelque chose qu'on balance avec d'autres chose aussi en termes de valeur. J'aime plus tellement parler d'argent, je préfère parler de valeur. J'ai un portefeuille et j'ai autant là-dedans. Et pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est plus d'avoir un nombre important, c'est de se dire que j'ai quelque chose de diversifié et qui est durable à travers le temps, quelles que soient les situations qui arrivent. Si demain l'euro ne vaut plus rien, ben, j'ai une alternative. Si demain le bitcoin ne vaut plus rien, j'ai une autre alternative. Voilà. Et donc, c'est de voir ça comme étant quelque chose de diversifié plutôt que de se dire tout le temps, ah, j'ai plus ou j'aurais pu gagner plus si j'avais fait tel investissement ou il me faut tel nombre sur le compte en banque, non. Enfin voilà, la conception est beaucoup plus posée en fait là-dessus. Et en fait beaucoup plus mature, mais aussi plus réaliste, plus saine en fait. Et alors une deuxième chose qui pour moi, et là c'est la conclusion de mon bouquin, c'est qu'en fait la seule devise qu'on a réellement, c'est le temps. Et donc c'est aussi d'avoir pris une certaine conscience, de se dire mais en fait, dans quoi est-ce que j'investis mon temps? Avec qui est-ce que je le passe? Qu'est-ce que je construis avec mon temps? Et quel est le trade-off entre de l'argent et du temps?
Justement, parlons un peu de ton livre. Donc ça s'appelle Le Bitcoin, la blockchain and beyond. Est-ce qu'il a été traduit en français finalement?
Et il y a une copie sur ma table de chevet qui n'est toujours pas publiée parce que je suis un peu perfectionniste. Non, il n'y a pas de version française pour le moment, mais j'avoue qu'avec la nouvelle bulle qui s'annonce, c'est peut-être pas impossible qu'en 2021, je mette un peu à jour et je publie en français, mais ça reste un grand peut-être. Donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est de passer sur le site internet Bitcoin Blockchain Book et ou via mon site internet. Et quelque part, il y a un endroit où vous pouvez vous inscrire sur une liste. Si jamais le bouquin se publie en français, vous recevrez un email.
Mais du coup, je voulais savoir, donc Bitcoin, blockchain and beyond, c'est quoi le beyond?
Le beyond, en fait, c'est tout ce qu'il y a au-delà de la technologie. C'est-à-dire, quelque part, tout a commencé avec Bitcoin. On a compris la blockchain et j'ai travaillé pour une boîte de conseil. J'ai beaucoup travaillé autour de la blockchain, les cas d'usage possibles dans la blockchain, que ce soit dans des secteurs comme le pharmaceutique, le secteur public, le secteur financier, etc. C'est super, super passionnant de voir comment une technologie peut vraiment être quelque chose de révolutionnaire à travers différentes industries. Alors, pour certaines industries, c'est révolutionnaire. Pour d'autres industries, c'est plutôt, on va dire, ça permet de gagner en termes d'efficience, donc ça permet de mieux faire ce qui se fait déjà. Mais donc, j'ai trouvé ça absolument passionnant de découvrir toute une série d'industries à travers une technologie et un angle très spécifique. Donc ça, c'est la blockchain, c'est vraiment le côté infrastructure, le côté technologie derrière les bits et les bytes. Et le beyond, c'est vraiment quel est l'impact plutôt sur la société que ça peut avoir. Parce que voilà, dans la technologie blockchain, il y a des contrats intelligents. Mais si vous avez ces contrats intelligents, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les différentes industries? Mais aussi plus loin que ça, on pourrait parler de est-ce qu'on peut redéfinir l'identité? Par exemple, ça c'est là, on touche quand même sur des questions sociétales assez intéressantes. Et donc voilà, c'était un peu... voilà, parce que le bouquin commence vraiment en expliquant Bitcoin, en expliquant la blockchain, mais il prend aussi, dans les derniers chapitres, vraiment une vue plus hélicoptère de la société, et il prend quelques cas spécifiques, par exemple le revenu de base. Si on en fait un, je ne suis pas pour ou contre un revenu de base. Aujourd'hui, plus je grandis, bon, si je peux dire ça, ou plus je vieillis, c'est selon... puis je me dis qu'il y a vraiment un argument pour le revenu de base, là où avant j'étais absolument contre, donc je suis pas encore pour ou contre, hein. Je dis j'aime bien connaître la chose avant de me prononcer, peut-être qu'en fait je ne saurais jamais parce qu'il faut vraiment faire des expérimentations pour le savoir, mais s'il y en a un, je pense que vraiment la blockchain est l'outil qu'il faut derrière, c'est la structure qui va permettre ça. J'avais fait un TED Talk sur le sujet d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Mais donc oui, les derniers chapitres prennent vraiment un peu cette vue plus hélicoptère, quitte pour l'identité. Est-ce qu'on peut redéfinir l'identité? Est-ce qu'on peut redéfinir le système économique, des systèmes comme des revenus de base, des monnaies locales, etc. Quitte pour l'industrie, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour le secteur public? Qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur financier dans le monde corporate? C'est vraiment une vue beaucoup plus large.
On parle de révolution blockchain comme d'une quatrième révolution industrielle. Quoi ça va nous impacter, nous, en tant que citoyens du monde ?
Quatrième révolution industrielle, c'est peut-être un peu exagéré, je pense. Je pense que ça fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la blockchain, il y a aussi l'Internet des objets, il y a la robotisation de toute une série de procédures, il y a l'intelligence artificielle, la blockchain fait partie, on va dire, de ces quatre grosses révolutions, mais aussi les imprimantes 3D. Enfin, il y a plein de choses qui vont amener à cette quatrième révolution. Disons que la blockchain a la spécificité d'être vraiment dans tout ce qui est transactionnel, c'est-à-dire qu'en fait on redéfinit la façon de faire des transactions. Et déjà non seulement on redéfinit peut-être potentiellement l'argent, mais on laisse ça comme étant quelque chose d'assez abstrait. Mais demain vous pourrez imaginer qu'une banque centrale émette, et d'ailleurs c'est en étude, hein, une devise comme l'euro sur la blockchain. Alors en soi ça reste une devise comme l'euro, donc ça change pas fondamentalement le concept de l'argent. Par contre, ça change la façon dont on va l'utiliser et la transactionnalité possible de l'argent. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de passer par des banques pour transférer de l'argent, donc il y a une certaine lenteur, il y a un certain nombre d'intermédiaires tout simplement. Avec l'argent intelligent, en tout cas les jetons blockchain, hein, vous pouvez imaginer qu'un euro représente un jeton sur la blockchain, représente un jeton sur une blockchain spécifique représente un euro, mais que vous pouvez mettre ces euros vous pouvez transférer d'une personne à une autre de façon automatique et immédiate sans intermédiaire, c'est déjà assez intéressant comme concept, hein. Vous avez des paiements instantanés, du coup, à faible coût à travers le monde potentiellement, donc déjà ça, vous changez beaucoup la transactionnalité. Alors ça n'a pas l'air d'être quelque chose de révolutionnaire, mais c'est une augmentation de la vitesse. C'est un peu comme changer l'accès à l'information. Je retourne chez mes parents, avoir l'accès à l'encyclopédie qui a été imprimée il y a 3 ans par des professeurs d'université qui ont fait 20 ans de carrière, qui ont publié quelque chose dans l'encyclopédie, versus aller en ligne et avoir l'information sur Twitter d'un président en direct. C'est un changement dans la vitesse, et donc ça va être la même chose avec le système de transaction. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut s'attendre à quelques petits changements. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement ? On va mettre ces jetons dans des contrats intelligents. Et donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a peut-être des contrats entre des entreprises où il y a des clauses qui disent que si tel scénario se produit, à ce moment-là, vous avez un remboursement de autant d'euros, ou à ce moment-là, il y a tel paiement qui s'effectue ou telle partie du paiement qui s'effectue. Et donc, il y a toujours des êtres humains qui vont quelque part effectuer ce paiement, etc. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait imaginer des contrats intelligents qui savent un peu ce qui se passe sur la blockchain ou dans le monde de façon générale, et qui, s'ils savent ce qui se passe et qu'une de ces conditions du contrat s'exécute ou a lieu, le paiement s'exécute automatiquement. Et donc, vous gagnez encore une fois en efficience de transaction et de paiement à ce niveau-là. Mais vous avez aussi des nouveaux modèles qui peuvent exister. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, personne va aller téléphoner sa boîte d'assurance pour tout simplement, je sais pas moi, emprunter la caméra d'un ami. Vous pourriez imaginer que demain vous avez un contrat intelligent qui est disponible où l'utilisateur lui-même encode l'emprunt d'une caméra d'une personne X vers une personne Y. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où la caméra est perdue, la caméra est volée, etc., etc. Et donc ce contrat intelligent permettra tout simplement de garantir ou de donner une assurance, là où au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir une assurance pour la simple raison que le coût de mettre en place cette paperasse n'en vaut pas la peine. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus de compétition à ce moment-là entre les boîtes d'assurance, parce que vous allez imaginer que c'est sur une blockchain, et donc toutes les boîtes pourront proposer leur propre contrat intelligent, et donc elles devront un peu se différencier d'une façon ou d'une autre, mais en fait, l'utilisateur aura très vite accès à l'ensemble des données, et ce sera plus, vous habitez en Belgique, et donc la concurrence est telle, et donc on va faire en sorte que vous avez tel contrat, tandis que si vous habitez en France, on va vous donner un contrat un peu plus intéressant parce que la compétition est un peu plus rude. Et donc, ça va changer beaucoup de choses à ce niveau-là. On peut imaginer aussi que, et là, on parle quand même sur plusieurs dizaines d'années parce que la technologie est en plus super, super mature, mais on va y arriver. On peut y arriver en tout cas. C'est de se dire, vous allez avoir, au jour d'aujourd'hui, on stream de l'information, on stream du contenu vidéo, etc. Demain, on pourra streamer des paiements. C'est-à-dire que si vous, quelque part dans les années 90, si vous allez parler au CEO d'une entreprise télécom, ils allaient vous dire, on comprend l'Internet, mais il n'y a pas de problème pour la téléphonie, il n'y a pas de problème pour la télévision, ça ne va pas remplacer la téléphonie, ça ne va pas remplacer la télévision, pour la simple raison que l'Internet ne se met pas à l'échelle, it doesn't scale, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Et c'est vrai, c'était vrai à l'époque, effectivement, on avait déjà du mal à télécharger une image en ligne, ça prenait 2-3 minutes. Donc, on laisse tomber les vidéos en ligne, streamer du Netflix, on laisse tomber. C'est pas possible. Mais voilà, on est 20, 30 ans plus tard. Aujourd'hui, on stream en HD via Netflix. Et donc, on a vraiment cette information qui est streamée au jour d'aujourd'hui, tandis qu'avant, ce n'était pas possible. On pourrait imaginer la même chose avec de l'argent dans le futur. C'est-à-dire qu'on n'a plus des transactions qui se font de façon très... voilà, maintenant, je vais faire une transaction, la transaction a lieu, puis c'est fini. Ou je fais paye mon abonnement pour le mois, tous les mois. On pourrait avoir vraiment des transactions streamées. C'est-à-dire qu'au moment où vous regardez Netflix, vous ne payez plus votre abonnement de 15 euros par mois. Vous payez à la seconde où vous regardez. Et il y a une micro-transaction qui a lieu en fonction de la capacité que vous utilisez. Ce sont des choses qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas vraiment possibles parce que la technologie n'est pas suffisamment mature, mais dans 20-30 ans, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait possible.
Donc la technologie blockchain, ce n'est pas seulement un buzzword, c'est une réelle technologie qui va modifier, en tout cas, certains secteurs de notre société.
Ah oui, tout à fait, c'est beaucoup plus qu'un buzzword. Il y a quelque chose de fondamental là-dedans qui change. On n'a pas encore parlé de l'aspect communauté, mais c'est vraiment une blockchain d'une entreprise ne fait pas sens. Au sein d'une même entreprise, une entité qui a un contrôle qu'on fait sur la blockchain ne fait pas sens. C'est vraiment un système de collaboration. On va créer des écosystèmes dans lesquels les gens vont travailler. Aujourd'hui, on voit des banques qui utilisent la blockchain pour créer des écosystèmes entre les banques. Et voilà, si vous avez 13 banques qui font partie de l'écosystème, je peux vous assurer qu'il y en a une 14e et une 15e qui veulent rentrer pour faire partie de cet écosystème, parce que ne pas en faire partie, c'est un désavantage compétitif. Et donc, déjà, rien que cette approche de dire que vous avez des compétiteurs aujourd'hui qui travaillent ensemble pour assurer leur futur, c'est déjà un changement de paradigme assez paradoxal et assez intéressant. Après, la technologie prend du temps. C'est un outil. Et après, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de définir ce qu'on en fait avec. C'est comme l'Internet, c'est un outil. Il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. On décidera, en tant qu'êtres humains, vers où on veut aller là-dessus. Et donc, oui, c'est une technologie, c'est tout à fait révolutionnaire si on le veut, mais il faut qu'on le veuille. Et donc, ça prendra encore du temps avant de se mettre en place aussi, d'un point de vue infrastructure. On a encore un peu de boulot à faire, mais il y a un potentiel révolutionnaire absolument incroyable.
Pour clôturer doucement notre interview, je voudrais savoir à quel point le monde de la blockchain et des crypto-monnaies ont changé ta vie, entre celle que tu imaginais lorsque tu avais 15 ans et celle que tu vis réellement aujourd'hui.
Pour moi, ça a été un accélérateur. Bon, j'ai 30 ans, donc c'est assez jeune, et j'ai fait mon mémoire à 24 ans. Et en fait, quand j'avais 15 ans, pour moi, comme je disais, le monde, la ville, c'est loin. Au jour d'aujourd'hui, j'habite en ville à Bruxelles, donc qui est quand même la capitale européenne. Pour moi, ça m'a vraiment permis assez vite, parce que bon, à 24 ans, en fait, donc mon mémoire a gagné le prix de meilleure mémoire financière de Belgique en 2014 par ING. Et pour moi, ça, c'était aussi un peu une première validation de ce sur quoi je travaillais, en me disant, j'ai quand même le CEO d'une grande banque belge qui, irlandaise, mais pour le coup, c'était la branche belge, qui estime que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Et donc, c'est d'avoir accès à un certain public auquel je ne croyais pas avoir accès. Je pense que c'est pas juste le blockchain, c'est aussi le fait d'avoir fait des études universitaires. J'ai commencé dans une boîte de conseil qui est Deloitte, qui m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Encore une fois, tout se retrace plus à l'Internet qu'à la blockchain. Ce que la blockchain m'a permis pour moi, c'est vraiment de me dire, ben voilà, j'ai une expertise que très peu de gens ont parce que j'étais sur la balle 3-4 ans avant tout le monde, avant le buzz. Qui fait qu'au moment où le buzz est arrivé, j'avais le bouquin qui était prêt et je savais de quoi je parlais, tandis que tout le monde en parlait, mais peu de gens comprenaient réellement ce que c'était. Et j'avais cette capacité de l'amener de façon simple pour que tout le monde comprenne. Et j'étais dans un environnement aussi qui permettait tout simplement de prendre ce que ça voulait dire pour le business et pour les différentes industries, par le fait que j'étais dans une boîte de consultance qui était quand même assez large en termes de ce qu'elle pouvait proposer à ses clients. Voilà, j'arrive un peu au point où je voulais en venir. Ça a vraiment ouvert les portes du monde, c'est-à-dire que ça m'a permis de voyager beaucoup. J'ai donné des formations, que ce soit à New York, à Dubaï, etc. Ça m'a vraiment permis, même à la Silicon, j'aurais jamais cru un jour aller à la Silicon, certainement pas donner une formation, expliquer sur place ce qu'il devait faire. Bon, voilà, après, on relativise beaucoup, On a un petit domaine d'expertise dans lequel on est bon, et là-dedans on est bon, et dans le reste on a beaucoup de choses à apprendre. Mais ça m'a permis, en tout cas, de très vite, entre mes 26 et mes 29 ans, de vraiment avoir une visibilité assez importante dans un domaine très niche. Mais en tout cas, oui, d'avoir accès à une série de personnes auxquelles j'aurais jamais cru avoir accès, de visiter des endroits que j'aurais jamais cru visiter, mais aussi de se rendre compte, parce qu'il y a aussi, il y a eu pas mal d'attention médiatique aussi à ce moment-là, et donc aussi de comprendre un peu comment fonctionne le monde des médias, comment fonctionne la façon dont les informations sont transmises à des gens, etc. Donc en fait, c'est tout simplement un peu, ça m'a permis de comprendre le monde de façon un peu plus subtile ou un peu plus nuancée, un peu plus concrète, plutôt que de se faire une idée sur comment fonctionne le monde et de se faire une idée sur « Ah oui, mais là-bas, ils décident comme ça et ce sont des gens comme ça, etc. » Non, c'est de vraiment d'avoir une meilleure compréhension de comment le monde fonctionne. Et quelque part, c'est rassurant aussi, parce qu'on pourrait dire, par exemple, « Ah, les gens qui dictent des lois, ce sont des gens mal intentionnés, ou les grands chefs d'entreprise, ce sont des gens mal intentionnés. Non, en fait, non, ce sont des gens qui font ce qu'ils peuvent là où ils sont et qui ont souvent des bonnes intentions. Et qui, voilà, donc ça a aussi un côté rassurant, mais aucun système n'est parfait et chaque système a ses lacunes. Et donc voilà, donc pour moi, la blockchain, ça a changé quoi? Ça a changé un peu ma façon de comprendre le système dans lequel, le système au sens large dans lequel.
Est-ce que les crypto-monnaies en tant que telles, au niveau financier, ont aussi un peu changé ta vie?
Pas tellement, dans le sens où, oui, j'ai des bitcoins, mais dans le sens où j'ai pas vraiment fait j'ai jamais réalisé un achat qui a été influencé par ça. J'ai des amis qui sont très riches en bitcoin, bien plus riches que moi, qui se sont permis de prendre 2 ans, qu'ils ont quitté leur boulot et pendant 2 ans, ils ont dit, maintenant, je me donne du temps pour moi, créer une entreprise ou ce genre de choses. J'ai jamais fonctionné comme ça. Pour moi, ça a toujours été, ça fait partie de ce que je possède, mais ça va pas changer ma vie. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que je voulais avoir un job de façon normale. C'est-à-dire que je voulais, au jour d'aujourd'hui, je travaille pour une boîte de conseil, mais j'ai ma propre petite structure. Mais je veux continuer à me dire, je veux créer, faire un business ou je veux faire ça de façon traditionnelle, si on peut le dire, parce que c'est un exercice, c'est un défi, et que gagner de l'argent facilement parce que le cours du Bitcoin augmente ou descend, on peut en perdre très facilement aussi, c'est peut-être un peu trop facile ou c'est pas ça la vraie vie. Enfin, ça a influencé, on va dire, ma route, mais financièrement, sur ma façon de gérer mes finances, ça ne m'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que je reste très pied sur terre, je pense. Voilà, j'ai pas fait un achat considérable parce que j'ai des bitcoins à un moment donné. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont pu s'acheter des appartements ou des maisons parce qu'ils ont vendu leur bitcoin. C'est pas mon cas. Non. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas changé de façon tangible financièrement ma vie. Alors, là où je dis que ça n'a pas changé financièrement ma vie, c'est de façon tangible, c'est correct. Par contre, de façon non tangible, j'ai quand même une certaine paix d'esprit, entre guillemets, dans le fait qu'une alternative au système mainstream financier existe. Et donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je balance. Et si demain, le système financier mainstream crash, c'est pas trop grave. J'aurai toujours un petit peu sur le côté pour survivre avec des bitcoins, là où d'autres n'auront peut-être pas. C'est la même chose avec l'immobilier. Vous pouvez faire la même analogie. Si demain, vous possédez un bien immobilier que vous avez payé votre crédit, le monde peut s'écrouler autour de vous, vous gardez vos 4 murs. Voilà, ça a quand même, de façon non tangible, ça m'a donné une certaine paix d'esprit. On peut dire ça ainsi. Si quelque chose de mal se passe, quelque chose de mal se passera et je vais en souffrir un peu, mais peut-être moins que quelqu'un qui a que des euros. Et donc, qu'est-ce que je peux donner comme conseil, entre guillemets, aux gens qui veulent se lancer dedans ou qui se posent la question? C'est déjà un de vous connaître. Comme tu disais très bien, moi, je suis pas un trader. Je suis pas quelqu'un qui a 6 écrans et qui passe du matin au soir à regarder toutes ces choses-là parce que tout simplement, ça me correspond pas. Je pense que je serais pas capable de dire si je passe un bon trade ou un mauvais trade ou peut-être dans quelques rares circonstances. Mais voilà, pour moi, c'est pas, je me sens pas à l'aise avec ça. Je me sens pas in control suffisamment. Et donc, moi, je préfère acheter, garder quelques années pour balancer, etc. Donc, ça dépend vraiment déjà, c'est de vous connaître. Si vous êtes un trader, vous êtes un flambeur et que vous adorez ça et que vous voulez jouer et que vous savez ce que vous faites, faites-le. Je sais pas comment, c'est peut-être un peu plus dur d'avoir un crédit pour un prêt immobilier à un moment donné près de sa banque en expliquant ça, mais vous voyez comment vous pouvez tourner ça dans une profession à ce moment-là, dans une structure qui permet effectivement de rester pied sur terre aussi. Mais donc, pour moi, pour quelqu'un qui veut comprendre un peu, moi, je dirais, la meilleure façon, c'est l'éducation. Et donc, il y a toute une série de choses en ligne, que ce soit des vidéos, des bouquins, etc. Des conférences, il y a une communauté, j'ai fondé une communauté à Bruxelles qui s'appelle Hive.Brussels, qui organise des événements, qui aide les gens parfois à acheter leur premier bitcoin, ce genre de choses. Donc, regardez autour de vous les meetups qui existent et parlez-en avec des gens autour de vous qui s'y connaissent, donc qui sont quand même un peu réputés. Mais surtout, lancez-vous. Ne mettez pas toutes vos économies dedans du jour au lendemain, mais inscrivez-vous sur une plateforme d'échange, créez votre adresse Bitcoin, achetez vos Bitcoins sur la plateforme d'échange, transférez-les vers votre portefeuille Bitcoin que vous avez chez vous. Comprenez ce que vous faites, jouez un peu avec ça, avec des petits montants. Si vous comprenez le système mieux et que vous dites « Ah ouais, c'est quand même assez intéressant, là j'ai plus d'assurance et je me sens en tout cas suffisamment en confiance que pour mettre plus, mettez plus », posez-vous la question « Quelle est la partie de mon portefeuille que j'ai envie de mettre là-dedans » Pour moi, financièrement, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai une très grande confiance que ça va monter beaucoup? Je vais mettre quand même une partie plus importante que si j'ai peu de confiance. Et si ça va monter beaucoup, est-ce que si c'est très volatile, peut-être que je veux mettre un peu moins parce que c'est très volatile et j'aime pas la volatilité. Donc, c'est vraiment de se poser la question dans l'ensemble de ce que j'ai, quelle est la partie que j'ai envie de dédier là-dedans, sachant que c'est un actif très volatile. Il faut pas rentrer dans le Bitcoin pour faire du 20%, c'est pas la bourse. La bourse, vous faites 20%, vous sortez, vous êtes content, c'est bien. Non, le Bitcoin, si vous faites 20%, c'est bien. Vous avez mis 1 000 euros dedans, vous sortez 1 200 euros, c'est bien, vous avez gagné 200 euros. Pour un asset qui est aussi volatile, vous avez pris beaucoup de risques aussi. Donc, il ne faut pas viser 20%. Il faut viser beaucoup plus que ça. Donc, en fonction du moment où vous achetez, il faut viser sur 50% si vous achetez assez tard. Il faut viser 1 000% si vous achetez à un moment donné où le prix est très, très bas et que vous visez plus du long terme. Faire x10 en Bitcoin, historiquement, ça a été possible. Donc, tout dépend un peu du moment auquel vous achetez. Si vous dites que le maximum que le prix peut monter, c'est 10 ou 20%, moi, je dirais c'est peut-être un peu chaud d'acheter parce qu'il y a peut-être plus de chances qu'il fasse moins 20 ou 30% ou moins 50% également. Donc, il faut… Enfin, voilà. En fait, c'est non régulé, c'est offre et demande et donc, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de… On ne sait pas. On ne sait pas quelle est l'évolution du cours du Bitcoin. Mais donc, il faut être conscient que voilà, il faut prendre des risques et des risques mesurés, comme toujours. Si on ne prend pas de risques, on ne gagnera jamais quelque chose. Et si on prend des risques, on risque de perdre aussi. Mais si on les prend trop grands, ça risque de faire mal. Voilà. Rien de savant.
Et étant donné que tu as lancé ta propre entreprise, donc que ton business entier tourne autour des crypto-monnaies, si elle se crache demain, qu'est-ce que tu fais ?
Si elle se crache demain, donc si elle vaut vraiment très peu, j'achète plus. Parce que, imaginons que le Bitcoin vaille 100 euros demain, j'en achète tout plein parce qu'ils sont pas chers et donc ça va réduire mon coût moyen d'achat et ça va me permettre de rebalancer un peu. Voilà. Si demain il vaut 100, ben ça me fera pas de mal de rater 500 euros dans mon portefeuille financier pour acheter 5 Bitcoins en me disant que peut-être qu'un jour ils vaudront de nouveau 20 000. Donc ça me fera pas de mal de sacrifier 500 euros pour me dire que potentiellement ça vaudra 50 000 euros plus tard parce que c'est un trade que je suis prêt à faire, quitte à perdre complètement ces 500 euros. Voilà. Si vraiment le cours chute énormément, j'aurais probablement un remords de me dire, ben, j'aurais peut-être dû vendre parce que si j'avais converti dans une autre devise à ce moment-là, ben, j'aurais eu une autre valeur.
Mais au niveau de ton business en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, tu vis finalement de l'éducation aux crypto-monnaies.
Oui, et l'éducation aux crypto-monnaies, mais aussi blockchain pour les entreprises. C'est pas grave, on se réinventera. Hein. Le Covid est passé par là, on a un peu moins de formation, on voyage un peu moins, on se réinventera. Donc il y a toujours moyen de se réinventer, il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Puis il y a tout ce qui est les skills transversaux qui sont assez importants.
Et bien sur ces bonnes paroles, on va clôturer notre interview par un petit jeu de questions en rafale. Si tu veux bien, l'idée, c'est d'apprendre à mieux te connaître. Le but, du coup, c'est d'y répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Bitcoin ou altcoin ?
Bitcoin.
Salsa ou rock'n'roll ?
Rock'n'roll.
Champagne ou bière ?
Bière.
Quel est le livre que tu lis en ce moment ?
Alors, il faut savoir que je lis 36 livres en même temps et j'en termine aucun.
Si tu avais 100 000 euros à investir, dans quoi le mettrais-tu ?
Je mettrais dans plusieurs choses différentes. Une partie cash pour les besoins, comme toujours. Une partie ETF, long terme aussi. Hein. Tout ce qui est boursier, ça a un bon rendement. Enfin, historiquement, ça a toujours eu un bon rendement. On parle de 7% moyen par an à travers différentes décennies. Mais c'est pas... la bourse aussi, il ne faut pas acheter aujourd'hui pour vendre 2 ans. Il faut vraiment avoir un horizon de 30 ans et Bitcoin.
Qui serait selon toi la personne à suivre dans la cryptosphère en 2021 ?
Pure de Meister.
Quelle est la première chose que tu fais en te réveillant le matin ?
Je prends une douche.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ?
De la prospérité.
Eh bien, Jean-Luc, un grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir passé cette dernière heure avec moi. Et je te souhaite beaucoup de succès et à très bientôt.
Merci à toi, Roxane.
J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré par le parcours inspirant de Jean-Luc. Pour finir, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce de votre part. J'ai besoin que vous preniez 30 secondes de votre temps pour mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes ou Google Podcast afin de donner une plus grande visibilité à Plan B. Il m'aide le plus à faire connaître ce podcast, donc je compte sur vous et votre soutien pour prendre quelques secondes et laisser un avis positif. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter que j'envoie avec parcimonie, mais toujours avec de très bonnes informations. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve en début de mois prochain avec comme invité un YouTuber spécialisé dans le minage des crypto-monnaies. J'aurai l'honneur de papoter avec Kevin, plus connu sous le nom, ou le pseudo plutôt, de Monsieur TK. Ah, et avant de se quitter, n'oubliez pas vos clés, pas vos bitcoins.